Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Dans la rubrique Vivre à Lausanne toujours, ce soir nous recevons Mathieu Glaire. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue une nouvelle fois. Tu es, a-t-on vraiment besoin de le rappeler encore, l'un des rédacteurs du journal Moins, le fameux bimenstruel de Suisse romande d'écologie politique issu du réseau d'objections de croissance dans le canton de Vaud. Voilà. Bon, cela étant dit, Moins propose de faire connaître et de mettre en débat les idées de la décroissance. Et c'est pour cela que tu es invité aujourd'hui pour nous présenter le contenu du 24e numéro, celui du mois de août et du mois de septembre. Alors avec Fabio, on va en parler avec toi. Fabio, tu as déjà parcouru ce journal, mais je compte sur toi pour rien dire et puis laisser Mathieu nous faire un petit peu découvrir cette édition.
Oui, on va faire effectivement un tour de ce numéro toujours extrêmement touffu et intéressant de Moins. Il y a notamment le dossier toujours qui prend une part importante, et cette fois, il s'agit de l'éducation.
Oui, un dossier d'actualité, puisque la rentrée, en tout cas dans le canton de Vaud, pour les élèves, était hier. Donc c'était effectivement l'envie depuis longtemps de traiter de l'éducation, puisqu'évidemment l'éducation occupe un rôle extrêmement important dans toutes les sociétés. Et on avait envie de se pencher un petit peu sur l'école, puisque c'est quand même le principal instrument éducatif dans notre société, et puis de le décortiquer un petit peu, de le triturer un petit peu, pour voir ce qu'il en sortait.
Oui, effectivement. Mais en quoi l'éducation, c'est quelque chose d'important dans les dynamiques de décroissance, vu que Moins est un journal de décroissance, donc tout à coup on trouve un certain nombre d'articles qui parlent de l'éducation, qui la critiquent, mais qui donnent aussi un certain nombre d'avis, de bilans sur l'éducation comme elle est faite aujourd'hui, ici et ailleurs, et même qui donnent quelques pistes pour sortir un peu de l'éducation telle qu'elle est engagée aujourd'hui.
Alors, on peut déjà signaler que, même si ça c'est un truisme, c'est bien de le rappeler que toute société doit mettre en place un système éducatif, puisque toute société cherche à se perpétuer. Donc notre société, qui est une société capitaliste, productiviste, individualiste, etc., avec tous ses défauts, cherche à se perpétuer et se perpétue en bonne partie à travers l'école. Donc même si on discute beaucoup de l'école et que l'école est passablement critiquée dans les médias, quand les gens en discutent, mais elle reste critiquée pour des raisons très, je dirais, superficielles. Et faire vraiment une réflexion critique sur l'école pour montrer comment est-ce que l'école sert la société actuelle productiviste, individualiste, qui détruit autant l'environnement que nos rapports sociaux, c'est assez rare qu'on se penche là-dessus. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire, et on essaye de montrer des choses qui sont connues depuis finalement assez longtemps, mais qui sont un petit peu oubliées. C'est que l'école, en tant que système, donc, est relativement récent. On a l'impression aujourd'hui que c'est quelque chose de quasiment naturel, qu'il faut absolument partout passer par là. C'est quelque chose qui est extrêmement récent, qui date du 19e siècle pour l'école primaire, et qui est vraiment concomitant, on a tendance à l'oublier, de l'industrialisation. Donc il y a vraiment dans l'école un outil de domestication des classes sociales, en particulier populaires, pour rendre service à l'industrialisation naissante. Et ça continue aujourd'hui, donc à l'école, si vous êtes un élève qui fait ce qu'on lui dit, vous avez plus de chances de bien vous en sortir
Évidemment.
Absolument. Et ça, on le retrouve, c'est ce que tu viens de dire dans plusieurs articles, notamment le premier qui est fait par la rédaction de Moins. C'est un peu une sorte de prise de position. L'école au service du productivisme, c'est à peu près ce que tu viens de nous rappeler.
Puis on peut-être donner encore un autre exemple. C'est en termes de type d'intelligence. L'intelligence humaine est très très large. On peut avoir des grandes qualités humaines, de relations des uns avec les autres. On peut avoir une grande qualité artistique, etc. Et notre société en général, et notre école en particulier, met l'accent sur certains types d'intelligence, l'intelligence en particulier mathématique, scientifique, et l'intelligence linguistique écrite. Et c'est pas par hasard, c'est parce que c'est celle qui sert à une société productiviste et individualiste. Et pour beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément ces qualités, l'école les fait passer comme des gens moins intelligents, alors que simplement ils ne le sont pas. Simplement, leurs qualités sont autres et ne sont pas des qualités qui sont nécessaires à une société productiviste. Il y a des enfants qui sont très sensibles à l'autre, au lien social, à la nature, qui ont un grand sens esthétique ou synesthétique de leur corps, mais ça a très peu de valeur dans notre société parce que ce ne sont pas des qualités qui servent cette société.
Bon, mais c'est un système qui a été mis en place comme ça en même temps.
Tout à fait, tout à fait.
Mais est-ce qu'il est juste, c'est une autre question, mais c'est le système.
Voilà, mais on en parle justement. Ouais. Poser cette question, ouais, est-il juste? Comment fonctionne ce système? On ne le pose jamais.
Comment il se développe?
Voilà, normalement.
Comment il se développe à travers un certain nombre de révolutions, notamment ou d'évolutions. Il y a eu la révolution. Enfin, il y a un article qui parle justement des nouvelles technologies dans l'école, des innovations qui font régresser. Je rappelle que avant, il y avait aussi un article un peu une sorte de bilan. On fait parler Ivan Illich et quelqu'un aussi qui écrit sur Ivan Illich pour dire qu'aujourd'hui il faut continuer à se poser les questions sur l'école. Ivan Illich, lorsqu'il écrivait beaucoup sur l'école, il prenait position, il n'y avait pas les nouvelles technologies. C'est quelque chose de nouveau parce qu'elles sont arrivées, elles sont arrivées après, et elles déterminent aussi un certain nombre de changements dans la société, donc dans l'école.
Voilà, Ivan Illich signalait que les outils ne sont jamais neutres. Hein. Aujourd'hui, on a tendance à penser que oui, mais les outils ne sont pas mauvais ou positifs, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Justement, Illich propose d'aller plus loin et de montrer que les outils, évidemment, on peut bien ou mal utiliser, je peux utiliser un marteau pour planter un clou ou bien pour taper sur la tête de quelqu'un, mais un marteau, ce n'est pas la même chose que, je ne sais pas, un marteau électrique, ce n'est pas la même chose qu'un marteau manuel. Ça déclenche un autre rapport au monde. Donc là, effectivement, c'est vraiment d'actualité. Hein. Je voyais hier, il y avait un gros article dans Le Temps, aujourd'hui dans le 24 heures, il y a un gros dossier dans l'hebdo de cette semaine sur à quel point en Suisse romande on est en retard sur les nouvelles technologies et puis il faut absolument doter nos enfants de tablettes, etc. etc. Et c'est vraiment une sorte de foi, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette idée que plus de modernisme, plus d'électronique dans les classes, ce sera automatiquement mieux, et c'est très rare qu'on se pose des questions et qu'on se demande par exemple pourquoi est-ce que les grands de la Silicon Valley, les ingénieurs de Google, etc., mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas d'écran.
Ouais, exactement.
C'est assez rare qu'on se pose ce genre de
questions. Et c'est bien relevé dans cet article. Hein.
Voilà.
Que tout à coup, on n'a pas vraiment de bilan sur l'amélioration de l'apprentissage des enfants via les tablettes et les nouvelles technologies. Et c'est même les chercheurs de la Silicon Valley, comme tu dis, qui disent on n'est pas sûr que ça soit une bonne chose.
Voilà, les rares études qui ont été faites à grande échelle sont plutôt montrer que s'il y a un effet, il serait plutôt négatif sur les enfants.
Il y a aussi un article qui parle de l'éducation en vue du développement durable, qui est la fameuse EDD, qui est aussi dans le père du programme d'instruction roman. On en est où par rapport à cette... est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet article de...
Oui, alors on a travaillé avec une personne qui travaille à la HEP, qui est donc un spécialiste de cette éducation en vue d'un développement durable, et on lui a simplement demandé est-ce que l'introduction de l'éducation en développement durable dans le programme d'enseignement est quelque chose d'intéressant qui pourrait répondre à certaines de nos interrogations que nous avons. Et puis, voilà, il montre que c'est plus compliqué que ça, que c'est pas facile, parce que justement, l'école, la structure de l'école est telle qu'on peut avoir des beaux discours. Le PER, d'ailleurs, quand on étudie le plan d'études roman, est relativement intéressant quand on le lit tel quel. Il y a une idée d'un développement intégral de l'enfant, de prendre en compte des domaines transversaux, etc. Mais voilà, comme il l'explique dans son article, en pratique, la structure de l'école est tellement lourde que choses qui n'existent pratiquement pas.
Oui, et puis qu'on en reste un petit peu à enseigner aux enfants les tri des déchets, alors que qu'on refuse un petit peu de parler politique, parce que
voilà,
c'est
pas
un petit peu de politique lorsqu'on s'engage à réfléchir sur les enjeux de société.
Voilà, ça reste très superficiel. On est vraiment dans la vague du développement durable. On va surtout pas faire de vagues. On va surtout pas réfléchir au fond de nos modes de vie, aux rapports de force qui existent entre certains et d'autres. On va juste essayer de mettre un petit vernis vert au-dessus de nos habitudes et nous acheter une bonne conscience. Donc là, finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau.
Et ça, c'est donc à la page 16, l'éducation en vue de développement durable. financée par Daniel Cural, qui est assistant en éducation en vue d'un développement durable à la HEP Vaud Lausanne. Il y a d'autres enseignants qui prennent la parole là-dedans. Vous dites d'ailleurs que ça a été un peu difficile de les trouver. Des enseignants de différents cantons, à différents niveaux de l'école, et qui font aussi un peu un état des lieux de l'école et puis d'un certain nombre de difficultés. C'est deux pages. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose ou si on laisse le lecteur.
Oui, on avait très envie de donner la parole aussi à des enseignants, de voir un peu ce qui se passait depuis l'intérieur. Alors, c'est vrai que ça n'a pas été facile de trouver. On cherchait des enseignants qui soient des gens engagés, qui soient motivés par leur métier, qui soient à fond dans ce qu'ils font, tout en ayant évidemment un regard critique vis-à-vis de notre société moderne et vis-à-vis de l'école. Parce que des gens qui ont un point de vue, on dira, orthodoxe, on le trouve dans tous les médias. Donc on avait envie de montrer quelque chose d'un petit peu différent. Et puis c'est intéressant d'avoir ces gens qui ont une grande expérience. On voulait aussi des gens qui aient 30 ou 40 ans d'expérience et qui continuent à être motivés par l'école. Et
vous en avez trouvé quelques-uns ?
On en a fini par en trouver quelques-uns, dans trois cantons différents. Une enseignante primaire, une enseignante secondaire et un enseignant du poste obligatoire. Et c'est intéressant de voir ce qu'ils racontent. Donc on sent quand même que pour des enseignants qui essayent de faire autre chose aujourd'hui dans les écoles publiques, c'est difficile. Il reste quelques espaces, les enseignants signalent, il y a des petits espaces où les enseignants peuvent essayer certaines choses, mais ça reste très difficile de faire une certaine remise en cause des structures globales à l'école publique aujourd'hui.
Oui, voilà pour ce qui en est un peu du bilan. Hein. Il faut découvrir dans ce numéro, parce qu'il y a plusieurs autres articles qui posent un bilan sur l'école aujourd'hui. Mais il y a aussi quelques idées de déscolarisation, parce que d'ailleurs le titre du dossier, c'est déscolariser la société, point d'interrogation.
Oui, le dossier est plutôt à charge donc contre l'école actuelle, et puis comme toujours à la fin du dossier, on essaye en tout cas de proposer certaines pistes, mais c'est vrai que c'est pas facile aujourd'hui, il y a assez peu d'alternatives réelles à l'école, que ce soit l'école privée avec tous ces problèmes de coûts, d'élitisme, etc. Donc nous avons parlé d'une école privée qui est une école anarchiste en Espagne, qui nous semblait assez intéressante, qui est co-gérée par les élèves, qui montre une certaine piste. Nous avons aussi signalé la piste de la déscolarisation, donc on appelle aussi l'école à la maison ou l'éducation en famille. Hein, il y a plusieurs mots pour
avec
ça.
Avec un joli repère d'un peu des politiques des cantonales un peu en Romandie, où on voit que Vaud, c'est plus facile de faire l'école à la maison dans le canton de Vaud que dans le Jura, par exemple, ou dans Fribourg, d'où il y a une certaine...
En général, on est très peu informé. La plupart des gens croient que l'école est obligatoire. En réalité, l'école n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est l'instruction.
Oui. Par contre, il y a des conditions. Les conditions sont plus ou moins...
Plus ou moins strictes. Mais par exemple, dans le canton de Vaud, c'est relativement libéral. Et donc l'école à la maison concerne peu d'enfants, mais en explosion, elle a été, le nombre d'enfants dans le canton de Vaud, par exemple, qui ont été déscolarisés et qui sont éduqués à la maison a été multiplié par 4 ou 5 en quelques années. Donc c'est un phénomène marginal, mais en explosion, et très intéressant puisqu'il permet, les parents reprennent en main l'éducation de leurs enfants au lieu de le déléguer à l'école, à l'institution scolaire. Donc on avait envie d'en parler.
Le temps passe très très vite. Enfin, ça c'est un dossier, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir et dont on aurait pu encore parler. On sort un peu du dossier, qu'on laisse soin au lecteur d'aller le découvrir. L'anthropocène, il y a un article de deux pages sur l'anthropocène. Qu'est-ce que c'est l'anthropocène ?
L'anthropocène, c'est un peu un nom barbare qui peut même faire peur, mais anthropos en grec, c'est simplement l'être humain, et puis scène, c'est un terme de géologie qui désigne une période géologique. Donc l'anthropocène, c'est l'idée que nous sommes entrés dans une nouvelle ère géologique qui est celle dans laquelle l'être humain devient un facteur géologique. Normalement, c'est les planètes, les oscillations de la Terre par rapport à son axe, le soleil qui chauffe plus ou moins. Donc normalement, le climat, la biosphère est influencée par des éléments naturels. Et pour la première fois, on est entré dans une phase où l'être humain, et ce n'est pas tous les êtres humains, c'est un certain type de société, les êtres humains modernes, la modernité occidentale, est devenu un facteur écologique.
Et on n'est pas d'accord sur l'époque où l'homme serait intervenu sur la nature.
Voilà, alors disons qu'il règne un très grand accord pour dire que nous sommes dans l'Anthropocène et qu'effectivement l'être humain est devenu un facteur géologique. Par contre, il y a des discussions sur effectivement dater l'entrée dans l'Anthropocène. Est-ce que c'est au moment de la domestication des animaux et des plantes, donc l'entrée dans le néolithique, etc. Ou bien est-ce que c'est la révolution industrielle, ou est-ce que c'est les années 50 avec vraiment l'explosion de la consommation de pétrole et l'arrivée de l'arme nucléaire. Donc il y a un certain débat, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il se passe vraiment quelque chose de très spécial aujourd'hui.
Et qui doit nous faire réfléchir sur notre impact.
Sur notre rapport à la biosphère. Et donc, c'est le thème d'une exposition très intéressante qui s'est ouverte le 18 juin et qui dure jusqu'au 8 janvier 2017, donc au Pénitencier, centre d'exposition des musées cantonaux à Sion, en Valais, et qui est vraiment une exposition très très intéressante sur ce thème de l'Anthropocène qui permet de réfléchir petits et grands sur notre rapport à la biosphère.
Article que tu as concocté toi-même à la suite d'une conférence qui a eu ici dans le cadre des cafés des croissances.
Voilà, un café des croissances sur l'Anthropocène où on avait invité le directeur du musée, Nicolas Kramer, qui a donné cet exposé à partir duquel nous avons concocté le texte.
Et puis une bonne nouvelle, on vous lit en dernière page que la rédaction s'est étoffée.
Oui, tout à fait. Donc depuis le début, nous sommes une petite équipe qui crie pour avoir du renfort. Et puis voilà, nous avons été entendus. Donc de nouvelles personnes sont en train de se joindre gentiment à la rédaction et de nous donner un bon coup de main. Donc nous en sommes très heureux. Et j'espère d'ailleurs que lors de notre prochaine rencontre, je ne serai plus le seul à parler, voire peut-être même que je me tairai.
Eh bien voilà, ça c'est une bonne nouvelle.
Mais moi, ça sera toujours présent. Moi, ça sera là quand même.
Effectivement, d'ailleurs justement, là on parlait du numéro 24 du journal Moins qui sort actuellement. Le prochain numéro, octobre-novembre j'imagine, quel est le thème du dossier ?
Tout à fait, donc octobre-novembre 2016, le dossier sera le thème du nucléaire puisque nous voterons au mois de novembre, j'ai plus la date en tête, je crois que c'est le 26 novembre, sur l'initiative Sortir du nucléaire. Donc les deux mois précédents, Moins essaiera de peser un peu sur les débats et d'apporter une autre voix, parce que bien sûr qu'il faut sortir du nucléaire, mais ce n'est pas tout à fait aussi simple, il y a d'autres questions à se poser.
Et puis surtout, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain.
Tout à fait.
Vous dire encore que vous pouvez participer à la mise sous pli de ce journal, ce sera le 1er octobre à partir de 10h à Vevey, sur la rue des Deux Marchés numéro 23. Vous pouvez vous inscrire sur l'adresse email info@achetez-moins.ch. Et puis vous dire encore que vous pouvez commander l'édition actuelle sur achetez-moins.ch et vous le trouvez également dans les principaux kiosques. Merci beaucoup, Mathieu Clair.
Merci beaucoup de nous donner ce petit moment pour partager.
Avec grand plaisir et merci Fabio pour la préparation de cette interview.
Un plaisir.